Libre à vous.
L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
Géotrek, suite logiciel libre pour gérer et valoriser sentiers et activités touristiques, c'est le sujet principal de l'émission du jour. Avec également au programme, la CNIL force Carrefour à positiver sur la protection des données, et aussi la chronique d'Antanac sur le thème libérer aussi des pratiques. Nous allons parler de tout cela dans l'émission du jour. Vous êtes sur la radio Cause Commune, la Voix des Possibles 93.1 en Ile-de-France et en DAB+, et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Frédéric Couchet, le délégué général de l'April. Le site web de l'association, c'est april.org et vous pouvez y trouver une page consacrée à l'émission avec les liens et références utiles et aussi les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours ou nous poser toute question. Nous sommes mardi 8 décembre 2020, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. Alors, réalisation de l'émission aujourd'hui, mon collègue Étienne Gonu. Bonjour Étienne.
Salut Fred.
Si vous souhaitez réagir, poser une question pendant ce direct, n'hésitez pas à vous connecter sur le salon web de la radio. Pour cela, rendez-vous sur le site de la radio, causecommune.fm, et cliquez sur le bouton de chat et retrouvez-nous sur le salon dédié à l'émission. Nous vous souhaitons une excellente écoute. Alors, nous allons passer directement au premier sujet de l'après-midi. Évoquer le code à la main, une règle de droit ou un procès en lien avec les œuvres, les données, les logiciels ou les technologies, c'est la chronique « In Code We Trust », dans le code nous croyons, de Noémie Berger, avocate au cabinet d'Une. Le thème du jour, la CNIL force Carrefour à positiver sur la protection des données. Bonjour Noémie.
Bonjour Fred, bonjour à toutes et à tous.
Eh bien nous t'écoutons.
Eh bien oui, la chronique du jour est consacrée aux deux récentes décisions de la Commission nationale de l'informatique et des libertés qui ont lourdement sanctionné les sociétés Carrefour France et Carrefour Banque, filiales du groupe Carrefour, pour des manquements au règlement général sur la protection des données. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi les deux filiales de Carrefour, du groupe Carrefour, ont été condamnées. En réalité, ce qui s'était passé, c'est que la CNIL avait été saisie de plusieurs plaintes de particuliers et à la suite de ces plaintes a organisé des enquêtes, puis à l'issue de ces enquêtes a sanctionné ces deux sociétés du groupe Carrefour pour des manquements au RGPD. Donc, lorsqu'elle a effectué ses contrôles, elle a permis à la société Carrefour, dans le cadre de ses contrôles, de faire part de ses observations. Et à l'issue de toute cette lourde procédure, eh bien, elle a rendu ses deux décisions le 18 novembre 2020. Ces deux sociétés, donc la société Carrefour France exerce dans le secteur de la grande distribution, la société Carrefour Banque exerce quant à elle dans le secteur bancaire, traitent énormément de données à caractère personnel. Et la CNIL est allée rechercher si les traitements qu'elles opéraient toutes les deux, étaient conformes à la réglementation applicable. Alors ces deux décisions dont on parle, elles sont marquantes. Elles sont marquantes parce que les enjeux financiers sont, pour le coup, sans commune mesure avec le passé. En effet, les décisions font état d'une condamnation de Carrefour France à une amende de 2 250 000 euros et pour Carrefour Banque à une amende de 800 000 euros, outre la publication des deux décisions. En revanche, la CNIL n'ordonne pas d'injonction à ces deux sociétés de mettre en place des nouveaux modes de traitement ou de corriger ce qui était mal fait, puisque la CNIL relève dans ses décisions que les deux sociétés ont fait des efforts importants pendant toute la procédure d'investigation et que finalement leur mise en conformité, elles l'ont fait à ce moment-là. Sur les manquements qui leur ont été reprochés, il y a tout d'abord un manquement à l'obligation d'informer les personnes. Donc là, en fait, on a considéré que les personnes dont les données étaient traitées n'étaient pas suffisamment informées. On a aussi des manquements qui concernent les cookies, donc les petits fichiers qui sont déposés lorsque on consulte le site internet, par exemple de Carrefour, et bien les règles quant au consentement des personnes n'étaient pas respectées. On a également un manquement qui a été relevé par la CNIL en ce qui concerne la durée de conservation des données. On a des manquements aussi en ce qui concerne les droits d'exercice des personnes et le respect des droits des personnes qui sont directement prévus par le règlement général sur la protection des données. Et enfin, on a un manquement à l'obligation de traiter les données de manière loyale. Alors, il faut se plonger dans la lecture de ces deux décisions pour comprendre un petit peu ce qui s'est passé. Pour la société Carrefour France, parce qu'en fait, il y a deux décisions, une qui concerne Carrefour France, une qui concerne Carrefour Banque. Pour la société Carrefour France, entre 2018 et 2019, la CNIL a reçu 15 plaintes de particuliers qui se plaignaient, par exemple, de prospection commerciale qui était faite malgré leur opposition, ou de refus de faire droit à des demandes d'effacement de leurs données, ou encore des demandes qu'ils avaient formulées auprès de Carrefour France qui n'avaient pas été, dont ils n'avaient pas eu de suite. Donc à la suite de ces 15 plaintes, la CNIL décide d'organiser des contrôles. Elle fait des contrôles en ligne, donc directement sur les sites internet de Carrefour, mais également sur place. Donc là, elle se rend sur place et elle vient étudier la manière dont sont traitées les données. À l'issue de ces contrôles, un certain nombre de manquements sont relevés. Donc comme je le disais tout à l'heure, il y avait un manquement à l'obligation de conserver les données pour une durée qui n'excède pas celle nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles ont été collectées. Donc ça, c'est le principe sur les durées de conservation. Quand on collecte des données, il faut prévoir des durées de conservation. On ne peut pas les collecter de manière illimitée. Et donc là, ce que relève la CNIL, c'est que la société Carrefour ne respectait même pas les durées de conservation qu'elle avait elle-même fixées. Donc, ce qui signifiait que de nombreuses données de clients qui n'étaient plus, qu'on appelait des clients inactifs, eh bien, étaient collectées et conservées depuis entre 5 et 10 ans, ce qui était évidemment beaucoup trop, puisque la société Carrefour avait elle-même indiqué qu'au niveau des durées de conservation, elle les conservait 4 années. Donc là, on était au-delà des 4 années. Ce qui est intéressant dans la décision, c'est que la CNIL, et ça intéressera quand même un grand nombre de sociétés, c'est que la CNIL va considérer que la durée de 4 ans pour de la prospection commerciale, donc la durée de conserver les données pendant 4 ans pour de la prospection commerciale, elle considère que c'est une durée qui est excessive. Et donc, là, on a ça nous permet en fait de nous donner une petite référence sur les durées de conservation. Donc ça, c'était pour le premier point sur la durée de conservation. Ensuite, on avait également des reproches qui concernaient les modalités d'exercice des droits, puisque quand nos données à caractère personnel sont traitées, on a la possibilité, dans certains cas, de pouvoir demander à accéder des informations sur les données qui sont collectées. Alors évidemment, ce n'est pas dans tous les cas, mais dans certains cas, cela s'applique. Et quand la société Carrefour France recevait une telle demande, systématiquement, elle demandait un justificatif d'identité pour toutes les demandes d'exercice de droit, qui n'est d'ailleurs pas prévu tel quel dans le RGPD, mais il est prévu que lorsqu'il existe un doute sur l'identité des personnes, on a la possibilité de demander un justificatif. Mais cette demande, elle ne doit pas se faire de manière systématique. Et ici, la CNIL est bien reproche à la société Carrefour d'avoir utilisé ce moyen de contrainte systématique pour finalement entraver un peu l'exercice de ses droits. Donc là-dessus, elle considère qu'il y a une violation. Ce qu'elle note également, et ce qu'elle note d'ailleurs pour chacun des manquements, c'est que pour chacun des manquements dans ses décisions, elle relève que la société Carrefour a engagé d'importants moyens pour faire les modifications nécessaires pour sa mise en conformité en cours de la procédure. Donc là-dessus, elle le relève également. Et ce qu'elle reproche aussi concernant les modalités d'exercice des droits, c'est que normalement, lorsqu'on fait une demande d'exercice d'un droit, et que légitimement, on a le droit à avoir notre réponse, on a souvent, il est prévu dans le RGPD, un délai dans lequel le responsable de traitement doit nous répondre. Et là, ici, en fait, ce que la CNIL a relevé, c'est qu'il y avait des demandes qui avaient été formulées, qui n'avaient pas encore eu de réponse et qui étaient au-delà du délai qui est prévu par le RGPD, qui est normalement d'un mois et qui peut être prorogé de 2 mois supplémentaires dans certaines conditions. Donc là-dessus, évidemment, la CNIL sanctionne. Sur un autre manquement, celui-ci, il concerne l'information des personnes. Donc là, la CNIL a considéré que les sites internet, la politique de confidentialité et toutes les mentions d'information pour justement expliquer aux personnes ce qui était fait de leurs données, ce qui se passait avec leurs données, n'étaient pas suffisamment compréhensible et accessible. Et elle considère donc que sur ce point-là, Carrefour France a manqué à une information des personnes qui est conforme au RGPD. Et elle retient donc une faute, tout en relevant toujours qu'en cours de procédure, la société a fait les modifications nécessaires pour rendre plus accessibles les informations qui concernaient les personnes. Sur le droit d'accès, elle constate également un manquement, puisqu'elle a constaté qu'effectivement beaucoup de personnes avaient exercé leur faculté de droit d'accès et qu'elles n'avaient pas reçu de réponse. Un autre point important, c'est le droit à l'effacement. puisque indépendamment du droit d'accès, indépendamment du droit d'opposition, on a ce qu'on appelle le droit à l'effacement qui permet dans certains cas de demander à ce que les données qui sont collectées sur nous soient ensuite effacées. Et là, elle a relevé également que la société n'avait pas fait droit à certaines demandes de droit d'effacement. Et dans ce cadre-là, elle constate que depuis, la société a rectifié son erreur, mais elle relève tout de même qu'il y a eu donc un manquement à cet égard. Ensuite, il y a également des manquements qui concernaient l'opposition, puisque dans certains cas, on peut s'opposer au traitement de ces données à caractère personnel, donc notamment par exemple à des fins de prospection commerciale. Et là-dessus, la CNIL a relevé que la société Carrefour avait reçu des demandes d'opposition de personnes qui ne voulaient plus recevoir de publicité par SMS, par exemple. Pour le coup, ça n'avait pas été pris en compte en raison notamment d'erreurs techniques ponctuelles. Et ce qu'a relevé la CNIL, c'est que la société Carrefour avait fait la mise en conformité nécessaire pendant la procédure, mais évidemment, c'était tardif puisque l'enquête était déjà en cours. Donc, ces manquements apparaissent dans la décision. Il y avait également d'autres manquements qui concernaient la sécurité des données. Elle considérait que sur ce point-là, la société Carrefour France n'avait pas respecté son obligation de sécurité. Autre point important, la société avait fait l'objet d'une attaque informatique en juillet 2019 et n'avait pas jugé utile de faire ce qu'on appelle la notification de la violation auprès de la CNIL. En effet, le RGPD prévoit que dans certains cas, lorsque un responsable de traitement, voire même un sous-traitant, subit une attaque informatique, il doit normalement faire une notification auprès de la CNIL pour informer la CNIL qu'il y a eu une violation des données. Il ne doit le faire que dans le cas où la violation est susceptible d'engendrer un risque pour les droits et les personnes, les droits et les libertés des personnes physiques. Donc en fait, la formulation est assez large et elle encadre quand même un grand nombre de violations. Et là, sur ce point-là, la CNIL relève qu'il y avait eu 4000 authentifications qui avaient été obtenues à la suite de ce piratage informatique et que dans ce cadre-là, il y aurait dû y avoir une notification auprès de la CNIL, ce qui n'a pas été le cas. Et là-dessus, la CNIL sanctionne également la société Carrefour France. Ensuite, il y avait également des manquements à l'utilisation des cookies, puisque la société utilisait des cookies sur son site carrefour.fr et également sur le site carrefour-banque.fr. Et en fait, ce que la CNIL a constaté, c'est qu'il y avait des cookies qui étaient déposés de manière automatique, sans recueil du consentement de l'utilisateur, qui est une violation. Alors cette fois-ci, c'est pas dans le RGPD, mais c'est dans la loi informatique et liberté, c'est l'article 82. On en a déjà parlé, on en a parlé en septembre sur les cookies. Et là, la CNIL en fait relève que la société Carrefour aurait dû demander le consentement avant de déposer les cookies. Et donc, il y a une violation également de la réglementation applicable. Alors c'est vrai que les décisions sont assez intéressantes en termes de mesures, puisque pour la société Carrefour France, on a une amende qui s'élève à 2 250 000 €. Alors pourquoi une telle amende? Eh bien, la CNIL, pour prononcer cette amende, elle va d'abord regarder le chiffre d'affaires de la société et il s'élève en 2019 à 14,9 milliards d'euros. Donc elle considère que au regard de cette activité et au regard du nombre et de la gravité des manquements qui ont été constatés, une telle amende est proportionnée et justifiée et c'est pour ça qu'elle la prononce. Ensuite, elle va également s'attacher à vérifier si il est nécessaire de publier la décision ou pas et elle considère que, encore une fois, au regard de la situation, la publication pendant une durée de 2 ans est justifiée et nécessaire. Donc ça, c'était pour la première décision. Sur la seconde décision de Carrefour Banque, c'est à peu près le même raisonnement. Il y a juste une chose en plus, c'est qu'elle a constaté un manquement à l'obligation de traiter les données de manière loyale. C'est-à-dire qu'en fait, là, elle reproche à la société Carrefour Banque d'avoir collecté des données et d'avoir informé les personnes qu'elles allaient transférer une partie de leurs données à une autre entité. Et en réalité, lors de son contrôle, la CNIL s'est rendu compte qu'elle transférait plus de données que ce qu'elle avait indiqué. Donc pour elle, ça constitue un manquement à l'obligation de traiter les données de manière loyale. Et pour d'autres manquements, au total, la société Carrefour Banque, quant à elle, est condamnée donc à une sanction de 800 000 euros d'amende. Et pareil, publication de la décision que la CNIL considère comme juste et proportionnée. Donc cette décision, ces deux décisions, elles nous rappellent quand même que le sujet de la protection des données, il est essentiel et qu'il faut le traiter, qu'il faut veiller quand même à sa conformité parce que dans le cadre d'un contrôle, eh bien la CNIL va aller vérifier que chacune des obligations est correctement respectée. Et on s'aperçoit quand même, et c'est une décision qui apporte beaucoup d'éléments intéressants sur justement chacun des manquements, on s'aperçoit que la CNIL prend quand même en considération le fait que la mise en conformité peut se faire aussi quand on n'a pas le choix au moment du contrôle. Mais il n'empêche que même si à l'issue du contrôle, la mise en conformité est faite, elle sanctionne quand même les manquements passés. Donc c'est pour ça que c'est un sujet qui est à traiter et on s'aperçoit que les amendes aujourd'hui, elles commencent à devenir quand même assez importantes. Donc on verra ce que sera la suite des contrôles et des décisions qui seront rendues en la matière. Mais il est sûr qu'on va au fur et à mesure pouvoir mieux affiner nos recommandations sur la matière grâce à ces décisions qui nous éclairent bien. Voilà, et j'en aurai terminé pour cette présentation de ces deux décisions.
Ben écoute, merci de la présentation de ces deux décisions, Noémie. La transcription de ton intervention sera bientôt disponible sur le site de l'APRI pour les gens qui veulent se reprolonger dedans avec les références qui sont déjà sur april.org et sur causecommune.fm. Écoute, je te souhaite de passer une belle fin d'année, puis on se retrouve en 2021 pour une plus belle année, si possible. Bon, ça serait pas difficile, hein.
Oui, espérons-le.
Bah, bonne fin de journée, à bientôt,
merci.
Noémie. Alors, c'était la chronique.
Merci, au revoir à tous.
Au revoir. In Code We Trust de Noémie Berger. On va aussi simplement faire, comme on vient de parler de Carrefour, on va faire un grand remerciement quand même aux personnes qui bossent chez Carrefour et notamment pendant les périodes de confinement et déconfinement. Et si Carrefour voulait vraiment positiver, elle augmenterait ses personnes de façon substantielle. Voilà. Nous allons passer à une pause musicale. Aujourd'hui, notre programmateur musical Eric Frodin du site Au bout du fil, aubout du fil.com, nous fait découvrir l'artiste américain Michael Hernandez, originaire de Zephyrillis en Floride, qui est un passionné de musique électronique et de jeux vidéo. Son nom d'artiste, c'est Blue Navy. On va écouter Starcade par Blue Navy. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune.
Nous avons écouté partiellement parce que elle est assez longue et nous souhaitons laisser le maximum de temps aux interventions après. Starcade par Blue Navy, qui est disponible sous licence libre Creative Commons, partage dans les mêmes conditions, CC BY SA. Vous retrouverez les références sur causecommune.fm et sur april.org, et vous retrouverez sur le site aubout du fil.com une présentation de cet artiste. Vous écoutez l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune, la voix des possibles, 93.1 FM en Ile-de-France et en DAB+, et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. Nous allons passer au sujet suivant. Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui va porter sur GeoTrek, une suite logicielle libre pour gérer et valoriser sentiers et activités touristiques, avec nos invités donc Camille Monchicourt, responsable du pôle système d'information Parc National des Écrins et animateur du projet GeoTrek, Amandine Salle, administratrice du système d'information du Parc National des Cévennes, et Jean-Christophe Becquet, vice-président de l'April. Et je vais d'ailleurs passer la parole à Jean-Christophe parce que Jean-Christophe va animer ce sujet long. Donc Jean-Christophe, c'est à toi, mais je reste connecté, je vous écoute et j'interviendrai éventuellement s'il y a besoin. À vous.
Oui, bonjour Fred, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vous propose pendant une petite heure une randonnée dans l'univers des logiciels libres développés par le secteur public avec Camille et Amandine. Et pour commencer, et avant d'en dire un petit peu plus sur GeoTrek, je vous propose de vous présenter brièvement. On commence par toi Camille, si tu veux bien.
Oui, bonjour, bonjour à tous. Donc moi je suis Camille Monchicourt, je suis responsable du système d'information au Parc National des Écrins. Donc on est au niveau du système d'information, on est une petite équipe de 4 personnes et donc on s'occupe de tout ce qui est informatique, base de données, cartographie, les sites web. Et j'anime aussi la communauté GeoTrek. Donc tout ça depuis le siège du Parc National des Écrins qui est situé à Gap dans les Hautes-Alpes. Voilà, Amandine.
Eh bien, du coup, Amandine Salle, donc moi je suis administratrice du système d'information au Parc National des Cévennes. Donc c'est un peu équivalent à ce qu'il y a dans les écrins. Donc pareil, on est une petite équipe où on gère un peu tout ce qui est projet informatique et principalement autour des données, dont la donnée de randonnée et de valorisation du territoire. Ouais, donc nous on se situe à Florac en Lozère.
Et donc Jean-Christophe Becquet, je suis vice-président de l'April et en fait j'ai plusieurs liens avec GeoTrek. Le premier c'est que depuis l'âge de 12 ans je suis randonneur et passionné de montagne et de nature. Le deuxième c'est que je vis dans les Alpes-de-Haute-Provence, territoire qui a choisi GeoTrek pour promouvoir ses sentiers itinéraires. Et bien sûr, dans le cadre de mon activité, de mon engagement à l'April, je suis passionné par le logiciel libre et notamment, comme je le disais en introduction, par le logiciel libre dans le secteur public. Et donc, pour commencer, j'ai envie de vous demander, ça sert à quoi GeoTrek ? Pourquoi avoir développé ce logiciel ?
Oui, alors GeoTrek, c'est un logiciel qui permet de gérer tout ce qui concerne les sentiers d'un territoire. Alors, il y a toute la partie aménagement, travaux, signalétique, entretien. Et puis, c'est aussi une application, un portail web et une application mobile qui permettent de valoriser et rendre accessible au public des informations sur les randonnées d'un territoire et tous les patrimoines qu'on va pouvoir découvrir le long de ces randonnées. Voilà l'essentiel de ce que fait le logiciel. Alors, il commence à avoir quelques années, on y reviendra, donc son périmètre s'étend, mais ça c'est son fonctionnement principal.
Ok, merci. Amandine, tu souhaites ajouter quelque chose ?
Non, c'est un bon résumé.
Ok, et du coup, est-ce que tu veux nous dire un petit peu, Amandine, Camille vient de dire que c'est un logiciel qui a déjà quelques années, tu veux nous dire comment a démarré l'histoire, d'où vient GeoTrek et comment ça commence ?
Donc GeoTrek a démarré il y a de très nombreuses années. C'était un projet en fait qui a été mené par le Parc National du Mercantour avec le Parc National Alpi-Maritimé et le Parc National des Écrins, donc où ils souhaitaient se doter d'un outil de gestion de leurs sentiers et également de valorisation des itinéraires de randonnée. Donc c'est un projet qui est né, je ne veux pas me tromper Camille, c'est 2012.
Oui c'est ça, on a commencé en 2010, 2011, 2012, on a vraiment était dans la phase opérationnelle à partir de 2012.
Voilà, c'est un projet qui est quand même très ancien et qui progressivement en fait a été amendé par les différents besoins. Et donc nous au niveau du Parc National des Cévennes, on s'en est emparé réellement en 2014, on a commencé la réflexion, et 2015 pour proposer une offre de randonnée mais également plus globalement toute l'offre touristique autour sur le Parc National des Cévennes.
Oui, ce que je peux ajouter, c'est que donc on a parlé de nos équipes respectives qui travaillons sur les parties vraiment système d'information. Mais donc dans un parc national, il y a entre 60 et 90 agents, dont une partie est sur le siège, une partie est au siège et une partie travaille sur le terrain, avec des missions diverses de surveillance, de protection de l'environnement, de connaissance de la biodiversité, mais aussi donc tout ce qui concerne l'entretien des sentiers, puisque c'est une activité assez importante. La randonnée, c'est une des manières privilégiées de parcourir et de découvrir un parc national. Et donc, c'est une mission assez importante pour les parcs nationaux parmi d'autres. Et donc, on avait ce besoin, donc, de mieux gérer l'information relative à tous ces sentiers, à toute l'activité autour des sentiers, mais aussi de mieux valoriser au grand public l'information et les randonnées à découvrir sur un territoire. Donc, on a décidé de concevoir ce logiciel et de faire un appel d'offres pour faire réaliser les développements par un prestataire.
Donc un logiciel effectivement qui est relativement transversal, hein, avec à la fois des aspects très techniques sur la gestion et l'entretien des sentiers, un aspect plus promotion, communication et animation du territoire à travers la promotion donc des randonnées pour le grand public. Et 2010, vous commencez à réfléchir à ce logiciel et vous décidez de le faire développer, penser à un appel d'offres pour développer ce logiciel sous licence libre. Alors, est-ce que tu peux nous dire, Camille, pourquoi ce choix de faire développer GeoTrek sous licence libre?
Oui, alors, bon, il y a deux raisons principales. La première, c'est que, donc, comme Amandine l'évoquait, on est parti à deux parcs nationaux, enfin même trois, parce qu'on avait un parc italien aussi qui était associé au projet, mais principalement donc le parc national des Écrins et du Mercantour. Mais la thématique des sentiers et des randonnées, elle est assez commune à tous les parcs nationaux. Donc on avait souhaité que le logiciel soit sous licence libre pour qu'il puisse potentiellement être utilisé par les autres parcs nationaux. Donc ça, c'était pour faciliter l'utilisation par d'autres parcs nationaux. Donc ça, c'était un côté très pragmatique et concret. Et après, il y avait aussi une volonté un peu plus globale, qui est que ben, nous, on est des utilisateurs de logiciels libres depuis pas mal d'années. On a construit, on s'est engagé assez fortement dans la migration de pas mal d'outils vers des logiciels libres, donc pour tout ce qui est traitement de texte, navigateur web, notre site internet, nos outils de cartographie, puis des outils informatiques. Donc on est beaucoup consommateurs, on bénéficie d'un peu tous les investissements qu'ont pu faire les uns et les autres avant nous. Et ça faisait déjà quelques temps qu'on se demandait comment nous, on pourrait contribuer à notre tour. Alors on a réfléchi à des systèmes, des dons, etc. Mais pour des administrations publiques, c'est pas toujours évident. Et puis c'est des choses un petit peu ponctuelles et finalement, on ne semblait pas forcément très... et plus constructive et en plus assez lourde à mettre en œuvre. Donc on s'est dit peut-être qu'une manière de faire, ce serait à notre tour de faire en sorte que les logiciels qu'on développe soient des logiciels libres et qu'ils puissent bénéficier à d'autres. Donc ça, c'était une volonté un peu plus générale. Pour autant, on n'avait ni vraiment de maîtrise ou de connaissance de comment faire, ni une volonté d'aller très loin. Voilà, on s'était dit que si quelques parcs nationaux utilisent l'outil, ce serait déjà un bon point. Et donc on a fait appel à une prestataire avec ce souhait donc que la solution retenue s'appuie sur des logiciels libres, mais aussi sur un logiciel libre. Et le prestataire qui a été retenu, qui est un prestataire toulousain qui s'appelle Machina Corpus et qui est spécialisé dans le développement de logiciels libres, nous a accompagnés justement sur toutes les bonnes pratiques qu'on a découvert petit à petit, brique par brique, de comment on met réellement et comment on construit et on diffuse et on publie un logiciel libre avec toutes les questions de licence, de forge pour diffuser le code source, mais aussi les bonnes pratiques, la documentation, etc. Donc petit à petit, on a appris et puis on s'est réapproprié un petit peu toutes ces pratiques qu'on découvrait.
Merci. Alors, question de Fred sur le chat. Quelle est la licence libre qui a été choisie pour GeoTrek?
Alors, de mémoire, c'est une licence BSD. Peut-être que j'ai dit une bêtise.
Non, c'est ça, ouais. Bon, alors, on s'est posé beaucoup de questions et en même temps, on a aussi des fois un peu mis de côté ces sujets qui peuvent tourner et retourner sans fin. Est-ce qu'on fait les bons choix, les mauvais choix? On se repose encore ces questions. Mais oui, on avait pris une licence la plus ouverte possible sous conseil du prestataire qui disait déjà bah, qu'on va utiliser des briques qui étaient sous cette licence, et puis aussi pour en avoir un usage le plus large possible. Voilà, on s'est reposé quelques fois la question, d'autres ont des avis différents, nous on n'a pas d'avis tranché, ça pourrait être amené à évoluer pour d'autres projets, des fois on prend des GPL V3, mais voilà, on n'a pas, là aussi on a vraiment appris, et au fur et à mesure, avec parfois des choix un petit peu difficiles à faire, et ça en fait partie aussi, mais pour l'instant on est plutôt content d'avoir une licence la plus ouverte possible, même si c'est de temps en temps rediscuté.
Ok, merci. Après, demande la parole.
Oui, juste pour préciser que sur ces aspects de licence, on consacrera un jour un sujet long sur ces licences libres. Alors, Camille a parlé de la licence BSD et aussi de GPL. La licence BSD, c'est ce qu'on appelle une licence permissive qui permet effectivement une réutilisation large, y compris dans les logiciels ensuite privateurs, alors que les licences de type GPL, c'est ce qu'on appelle des gauches d'auteur, c'est-à-dire qu'il y a une obligation de réciprocité. Mais je vous annonce qu'on fera un sujet long sur ce sujet en 2021 pour entrer dans le détail. Voilà, c'était juste un point d'intervention rapide.
Ok.
Voilà, donc si je résume en tout cas ton explication, Gami, il y avait à la fois donc le souhait à travers la licence libre de pouvoir mutualiser, partager des développements sur un logiciel à plusieurs parcs, et la volonté aussi de contribuer au commun des logiciels libres dans la mesure où vous en étiez surtout utilisateur et pas encore contributeur. Et du coup, j'ai envie de vous demander, donc on a dit, voilà, GeoTrek a presque 10 ans. Quel résultat aujourd'hui, on en est où avec GeoTrek en termes de fonctionnalité du logiciel, de maturité du logiciel et puis d'adoption surtout? Camille?
Oui, alors finalement, la dynamique a pris assez vite et assez fort, et elle est montée en puissance. On a rapidement des parcs régionaux qui se sont appropriés aussi l'outil, qui ont des contextes différents des parcs nationaux, mais aussi pas mal de points communs, et ce même intérêt et volonté de valoriser la randonnée et tous les patrimoines de leur territoire. Donc certains se sont appropriés et sont rentrés dans l'aventure. Les parcs nationaux, petit à petit, la majorité ont rejoint le projet, avec certains encore très récemment. Donc après, les pas de temps, les contextes, les calendriers sont différents selon les territoires. Et puis, plus récemment, des départements, il y a une quinzaine de départements, je crois qu'il y a une trentaine de parcs régionaux, des communautés de communes, des offices de tourisme, des comités du tourisme, de la rando, enfin, voilà, tous les acteurs qui pouvaient être intéressés de près ou de loin sur la randonnée se sont retrouvés dans cet outil et sont rentrés dans l'aventure. Donc, c'est allé vite, c'est allé fort. Aujourd'hui, on est un peu plus sans structure à l'utiliser en France, donc on s'attendait pas du tout à ça. Mais c'est passé par des étapes de communication, de valorisation. On avait présenté le projet parce que le publier uniquement aurait pas suffi, mais en tout cas, voilà, ça a pris bien au-delà de ce qu'on avait imaginé au début. Donc ça aussi, on a dû construire et apprendre et réagir un peu au fur et à mesure de la dynamique de l'outil.
Alors, des parcs naturels régionaux, des parcs nationaux, on comprend bien ce que ces types de structures ont à faire avec un logiciel de gestion des randonnées, mais peut-être pour nos auditeurs qui sont moins au fait des compétences des territoires et des collectivités, Amandine, est-ce que tu peux nous dire pourquoi des départements s'intéressent à GeoTrek?
Eh bien, je pense qu'ils s'intéressent à GeoTrek pour deux aspects. Donc il y a un, la valorisation, puisque le département a aussi une mission de valorisation de son territoire, donc de promouvoir notamment les itinéraires de randonnée. Mais il y a également une compétence qui est la compétence justement des sentiers qui est dévolue au département. Donc eux également, ils ont toute cette problématique de gestion de la signalétique, de répartition entre les différents opérateurs, de faire les droits de passage. Donc pour eux, il y a aussi un enjeu en termes de gestion de leur linéaire, enfin des sentiers de leur département.
Ok, donc effectivement, ça fait partie des missions des départements, la gestion des sentiers itinéraires. Et du coup, eux utilisent peut-être plus particulièrement les fonctionnalités liées à l'entretien et à la maintenance du balisage des sentiers.
Il y a ça, mais l'aspect valorisation est également aussi une mission du département. Donc du coup voilà, okay. C'est un peu comme un parc national, finalement. Avec peut-être pas autant de missions de valorisation comme on l'imagine. Puisqu'ils n'ont pas forcément un territoire d'exception, on va dire, comme ça peut être mis en avant sur les parcs nationaux. Mais c'est aussi important pour les conseils départementaux, tout ce qui est lié aux les enjeux touristiques.
Vas-y Camille.
Oui, non, ce qui est assez intéressant, c'est que finalement, les départements, ça faisait pas mal de temps qu'ils avaient des enjeux et des attentes fortes en termes de gestion, de structuration, de tout ce qui concerne les sentiers. Ils ont une mission assez forte là-dessus, puis ils étaient peu ou pas outillés, donc ils ont trouvé un peu en Géotrek un outil pour pouvoir mieux gérer tout ce qui concerne la randonnée sur leur territoire et se l'approprier. Et souvent, ils l'ont utilisé dans un contexte de collaboration avec les différents échelons qu'il y a dans un département, les communautés de communes, les offices de tourisme. Donc ils ont trouvé un peu dans Géotrek une réponse à un besoin ou une attente qu'ils avaient, qu'ils n'arrivaient pas à résoudre. Donc après, bon, bien sûr, il y a tout le côté humain, organisationnel, structurel, etc. Mais en tout cas, on leur a apporté l'outil sans vraiment du tout le vouloir, sans le précalculer. Et donc, ils s'y sont rapidement retrouvés dans cet outil. Ouais.
Du coup, en termes de jeu d'acteurs, ça doit donner des scénarios intéressants parce qu'effectivement, un sentier, il est à la fois, il peut être dans un parc naturel, il peut être en même temps, enfin, il est en même temps dans un département, et donc du coup, des acteurs se retrouvent peut-être à travers Géotrek à collaborer plus ou à travailler ensemble.
Oui, souvent c'était des structures qui avaient des données assez éclatées, avec comme on connaît dans beaucoup de thématiques, des fichiers un peu dans tous les sens, peu finalement d'outils réels de partage, avec quand même une dimension forte, parce qu'après on peut avoir des outils en ligne, génériques, de différents types, où on va retrouver des informations, mais là on va aussi vraiment sur le côté métier, etc. Donc ça leur a permis de poser, de remettre à plat un peu déjà leurs données, et de pouvoir commencer à s'ouvrir à d'autres et collaborer. Et aller échanger et collaborer avec une connaissance un peu plus fine et une structuration de leurs données plus opérationnelle. Donc ouais, ça crée des belles collaborations au niveau de pas mal de territoires aussi. C'est ça qui est assez riche aussi et assez encourageant dans ce projet. C'est un outil, mais c'est aussi tout ce qui se décline derrière, toutes les dynamiques, tous les projets que ça entraîne, qui est presque aussi riche, voire encore plus motivant à continuer dans ce sens.
Ouais, moi je trouve ça très intéressant parce qu'effectivement c'est un projet qui démarre avec trois parcs au départ qui ont un besoin commun, qui décident de le mutualiser, qui ont l'idée de le faire sous licence libre, et tu l'as dit, aujourd'hui plus d'une centaine de réutilisateurs. Ça me fait penser à un autre logiciel, la suite de logiciel métier Open Mairie pour les collectivités, qui est né dans la petite mairie d'Arles en région PACA, et puis qui aujourd'hui est utilisé par plusieurs centaines de mairies partout en France, mais même ailleurs en Europe, qui a été traduit dans 5 langues de la Commission européenne. Voilà, ça fait partie des effets quand on développe sous licence libre, c'est que le projet peut rallier des contributeurs et prendre de l'ampleur. Alors peut-être avant de prendre une petite pause musicale, le résultat est impressionnant, mais ça s'est sans doute passé sans difficulté. Et du coup, j'ai envie de vous demander quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées pour faire aboutir ce logiciel Géotrek. Amandine, peut-être des difficultés qui t'ont frappé pendant le développement de ce logiciel, pendant tes années à participer à cette communauté?
Alors du coup, moi, j'étais pas du tout là à la genèse du projet, mais voilà. Donc je suis arrivé après, justement, en voulant rajouter des fonctionnalités, en voulant réadapter l'outil à notre situation locale, etc. Et je pense qu'une des plus grandes difficultés, entre guillemets, justement, dans ce contexte-là, et en plus de marché public où on est tous des structures assez éclatées, avec des petites enveloppes, c'est justement de garder cette cohérence et de pas que un besoin spécifique prenne le pas sur sur l'architecture et donc je pense que la difficulté principale pour moi elle est là, c'est vraiment réussir tout le temps à généraliser le besoin et à dire ah ce besoin c'est mon besoin mais il peut servir à d'autres et comment est-ce que je vais le traduire pour justement qu'il puisse servir à d'autres et pas qu'il soit uniquement dévolu à ma situation personnelle.
Effectivement, donc une difficulté de gouvernance et de pilotage en fait des évolutions du logiciel. Galine, sur les
difficultés, mais enfin voilà, je veux juste dire, du coup, je pose ça comme étant une difficulté, mais en même temps, je pense que c'est aussi un exercice qui est très intéressant et très enrichissant. Donc voilà, c'est pas du tout négatif, bien au contraire, comme difficulté.
Oui, tout à fait. Oui, ça permet en fait de monter en qualité sur le logiciel. Ça demande un effort, mais à la fin, ça fait un logiciel qui est meilleur parce que en quelque sorte, il est le plus petit commun dénominateur entre les besoins de tous les acteurs qu'il a rassemblés. Camille, sur les difficultés pendant ces presque 10 années de développement de GeoTrek.
Ouais, il y a cet élément assez central qu'a évoqué Amandine, c'est tout cet équilibre, pouvoir bénéficier d'un logiciel que d'autres ont fait, mais sans le dénaturer, mais en même temps l'enrichir, parce qu'il faut pas que ça reste non plus sous une cloche, faut pas non plus tomber dans des systèmes de gouvernance trop centralisés où à chaque fois qu'on veut rajouter un bouton, il faut faire 15 comités et garder quand même une certaine dynamique et que les structures puissent s'en emparer. Et avoir une dynamique qui leur est propre. Donc cet équilibre, il est toujours assez fin, mais il est très intéressant parce que il nécessite des mécanismes d'animation de la définition des besoins, de réflexion technique. Donc le ou les prestataires ont aussi leur rôle à jouer là-dedans. Nous, en tant qu'animateurs plus de la communauté des utilisateurs, on essaie aussi de faire du lien entre les différents projets, leurs besoins. Sans non plus de vouloir centraliser tous les processus de décision pour laisser. Hein. Donc il y a cet équilibre qui est assez fin, mais c'est assez riche finalement aussi de se confronter à d'autres contextes, d'autres visions, et des fois ça apporte des réponses à des choses qu'on pouvait ne pas voir ou voir différemment. Donc c'est vraiment un équilibre riche mais assez fin à voir. Et après dans les autres difficultés qu'on a pu avoir, c'est que cette démarche, elle est très volontaire. On a essayé, on l'a fait, mais de manière empirique, ça c'est un point, mais aussi souvent avec un engagement assez fort. Et c'est pas toujours évident. Bon, au départ, de convaincre des décideurs, de convaincre des partenaires, parce que le logiciel libre, quand on a commencé, il avait pas forcément la bonne image qu'il a aujourd'hui. Donc déjà, au début, on était assez suspicieux par rapport à notre projet, voire un peu sceptique dans les différents réseaux. Bon, heureusement, ça a pris et puis ça a fait ses preuves. Donc maintenant, c'est plutôt l'inverse et tant mieux. Mais au début, ça a été un peu difficile d'avoir de la crédibilité. Et puis après, c'est maintenir la dynamique, garder une certaine générosité, comme l'a évoqué Amandine, même si on enrichit en permanence l'outil. Et le fait que donc nos financements et nos projets soient assez éclatés, c'est riche, c'est dynamique, mais du coup c'est assez dispersé. Donc faire du lien entre tout ça, mais aussi se poser à certains moments pour arriver à remettre à plat des aspects plus techniques, plus complexes, faire de la maintenance technique, ça a été un élément complexe. On a le projet grossissant, on a réussi maintenant à un peu mieux grouper des financements et arriver à lever des sommes un peu plus conséquentes pour pouvoir faire de la maintenance un peu plus opérationnelle. Mais là aussi, les entreprises privées ont dû investir aussi à leur tour, parce que nous, en tant qu'établissement public, on n'avait pas toujours la capacité ou la volonté, c'est un peu des deux, à financer des trucs de maintenance technique moins sexy que des nouvelles fonctionnalités.
Eh bien, donc, comment on assure la pérennité et l'évolution de ce logiciel, quels sont les ingrédients secrets d'animation de la communauté, c'est les questions que je vous poserai après la pause musicale. À tout de suite.
Alors nous allons effectivement faire une pause musicale. Tout à l'heure je vous disais que nous allions consacrer en 2021 une émission en licence libre. En fait on en a déjà fait une, j'avais un petit peu oublié, mais on n'était pas rentré dans vraiment tous les détails. Mais vous pouvez écouter le podcast, donc c'est l'émission du 7 mai 2019, l'émission 24, hein, sur causecommune.fm ou sur april.org. Mais nous allons faire une pause musicale. Nous allons écouter Ghibli Wave par Blue Navy. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune.
'Écouter Ghibli Wave par Blue Navy, disponible sous licence libre Creative Commons, partage dans les mêmes conditions CC BY SA. Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune, la voix des possibles, 93.1 FM et en DAB+, en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. Nous allons poursuivre notre sujet long avec nos invités du jour. Le sujet long porte sur GeoTrek, suite logicielle libre pour gérer et valoriser sentiers et activités touristiques. Nos invités Camille Monchico, responsable du pôle système d'information au Parc National des Écrins et animateur du projet GeoTrek. Amandine Salle, administratrice du système d'information du Parc National des Cévennes. Et Jean-Christophe Becquet, vice-président de l'April, qui anime l'échange. Donc je vous repasse la parole. J'ai précisé, parce que je crois qu'on n'a pas encore dit, que le site de GeoTrek, c'est geotrek.fr. Jean-Christophe, c'est à toi.
Merci. Donc, on a parlé de la naissance de GeoTrek au début des années 2010, du choix de l'adoption d'une licence libre, la licence BSD, et l'adoption aujourd'hui, 10 ans après, de ce logiciel par plus d'une centaine de structures, parcs nationaux, régionaux, départements, etc. On a commencé à parler avant la pause des difficultés qui se posent lorsque on développe un tel logiciel, notamment faire travailler ensemble une telle diversité d'acteurs. Et du coup, j'ai envie de vous demander, Camille, Amandine, quels sont les ingrédients secrets pour animer une communauté autour d'un logiciel qui rassemble plus d'une centaine d'acteurs aussi divers que ceux qui ont été cités. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce que vous avez mis en place et qui fonctionne pour faire vivre ce logiciel, Camille?
Ouais, alors c'est, je pense qu'il y a des éléments un peu fondamentaux là qui ont été mis en place dès l'origine, c'est-à-dire on était 2 parcs nationaux au départ, mais on n'était pas 10, ni 20, ni 50. Et le fait qu'on soit 2, ça nous a obligés déjà dès le début à penser nos petits besoins spécifiques du parc des écrins ou du Mercantour de manière un peu générique, de se confronter à un autre contexte, mais sans rentrer non plus dans des systèmes où on doit se mettre à 20 autour d'une table et de discuter de chaque truc. Donc c'était finalement assez, assez opérationnel, parce qu'on n'était que deux, mais on n'était pas tout seul, et du coup, ça nous a obligés à prendre du recul. Et voilà, et du coup, le fait que ça fonctionne pour deux, mais finalement, on se rend compte que ça fonctionne pour 100 aujourd'hui, et ça a pu être généralisé à d'autres structures. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a essayé de reproduire après, même quand le projet grandissait. C'est à chaque fois qu'on a des besoins, éviter de les faire tout seul dans son coin, dans son tunnel, mais sans non plus rentrer dans les processus où on se met à 50 autour d'une table et on décide de tout, et on a des gros processus de décision centralisés. Donc ce modèle décentralisé, avec des petits groupes qui avancent sur un sujet, qui informe beaucoup le collectif. Donc on n'est pas dans les gros processus de décision, mais par contre beaucoup d'informations, ça c'est vraiment la clé, je pense, du projet. Hein. On en serait resté juste là si on avait fait notre truc et qu'on avait déposé sur un... sur une forge, au-delà de la question de la licence, de la forge, quelle forge, etc., qui sont des débats intéressants, mais c'est aussi tout ce qu'il y a autour qui a vraiment fait le, qu'on est passé à l'étape suivante, c'est-à-dire aller voir les gens, faire, de la, faire un site internet, aller dans des rencontres des différents acteurs et à la rando pour présenter le projet. Et ça, ça a été les éléments bien, bien plus importants, je pense, que le simple fait de les mettre sur une forge et de mettre une licence, même si c'était des éléments aussi importants. Donc faire des petits groupes et puis valoriser, animer et toujours partir du besoin et des petits collectifs qui rendent compte au, au collectif, qui sont libres d'avancer, mais ouais, qui n'ont qui pas non plus une lourdeur décisionnelle trop forte. Et qui sont,
Merci Camille. Donc juste une précision de vocabulaire, une forge en fait c'est un endroit en général sur un serveur, ça ressemble un peu à un site, et c'est un endroit en fait où on dépose le code source du logiciel et qui fournit tout un tas d'outils pour collaborer, pour contribuer autour du développement du logiciel, comme la possibilité d'aller modifier le code, signaler des bugs ou proposer des nouvelles fonctionnalités. Donc du coup, tu as parlé de cet aspect essentiel de la communication en fait entre les acteurs au sein du projet. D'une manière très concrète et pratique, quels sont les outils de communication que vous utilisez dans la communauté GeoTrek? Liste de diffusion, wiki, Camille?
Ouais, alors bon, mais c'est parti d'outils plutôt techniques, donc les dépôts GitHub en l'occurrence, pour avoir accès à la documentation, pour échanger, remonter des bugs, discuter de fonctionnalités, donc plutôt avec les personnes les plus impliquées techniquement. Et on s'est rendu compte qu'il fallait aussi élargir, donc avoir une liste de diffusion plus générale pour les acteurs au sens large, qui ne sont pas que techniques, et impliquer aussi toutes les personnes plus liées à la thématique de la randonnée, des sentiers, etc. Et puis rapidement, en fait, on a voulu se rencontrer physiquement, parce que nous, on était un peu un nœud au niveau de... un nœud central, mais les gens passaient beaucoup par nous et on a voulu qu'on se connaisse plus généralement. Donc on a organisé à partir de 2016 des rencontres et ça c'est un outil très demandé qui a vraiment permis de passer à la vitesse supérieure et de vraiment donner un élément fondateur à cette communauté qui n'était que virtuelle et beaucoup passant par nous ou le prestataire. Donc du coup le fait de se rencontrer, ça a vraiment assis le projet, ça l'a pérennisé, ça a permis aux gens de se connaître, d'échanger. Et donc ce côté humain, rencontre, il a été essentiel, il est très demandé. Alors c'est des fois un peu lourd à organiser chaque année, donc c'est des fois tous les deux ans. Mais en tout cas, c'est essentiel, les gens ils sont attachés. Puis après des petits groupes de travail, un comité de pilotage, mais qui reste assez consultatif, participatif, qui ne veut pas centralisateur ni décideur, mais qui est plutôt là pour poursuivre un peu le projet dans les grandes lignes, organiser des rencontres, voilà, faire de l'information, mais surtout beaucoup de petits groupes de travail par projet, par thématique, selon les contextes, qui se font et qui se défont au rythme des projets, qui collaborent et qui font beaucoup d'informations au collectif. Ça, ouais, c'est...
Alors effectivement, si je peux juste apporter un rapide témoignage, j'ai eu la chance d'intervenir dans l'une des rencontres GeoTrek et moi j'avais été frappé effectivement sur le temps d'une journée hein, par l'énergie, la dynamique et la convivialité des participants. Voilà, il y avait quasiment une centaine de personnes réunies autour de GeoTrek, avec des mini-présentations, des ateliers ensuite plus pointus sur des aspects, sur des questions techniques ou thématiques autour du logiciel. Et donc voilà, je trouve que c'était vraiment impressionnant. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on pratique beaucoup dans le monde du logiciel libre. Donc pendant de nombreuses années, ont eu lieu chaque année les rencontres mondiales du logiciel libre, qui était un événement dans lequel on se retrouvait pendant une semaine sur un campus pour discuter de logiciels libres et présenter les dernières évolutions et échanger, partager. Et je pense effectivement que c'est vraiment un aspect très important dans le développement d'un logiciel libre. Et donc du coup, si on se projette un petit peu dans l'avenir, Amandine, selon toi, les prochains défis pour GeoTrek, les prochains pas?
Donc bah, là actuellement, quand même, il faut savoir qu'on est on a lancé un gros marché pour bien faire évoluer le logiciel. Donc bah, déjà, ça, c'est le pas en cours qu'il faut qu'on passe. Et après, effectivement, je pense que le plus important, c'est cet aspect communauté, relationnel, mettre en cohérence les gens et pour qu'ils discutent de leurs besoins et voilà, et que les choses soient spontanément pour décentraliser au maximum l'organisation, je dirais.
Camille, ta vision sur les trois prochaines années pour GeoTrek ?
Non, mais c'est pas...
Pardon.
Non, mais c'est pas ça, c'est moins important. Enfin, c'est pas moins important, mais justement, c'est aussi en termes d'échange de données entre GeoTrek. C'est que pour l'instant, les GeoTrek sont très figés, ils sont, on va dire, isolés. Et on a commencé à réfléchir à mettre en place des passerelles, etc. Donc, il y a eu le cas, c'était 0.5. Mais voilà, du coup, je pense que ça, c'est aussi un gros pas en avant à faire, de permettre plus facilement les échanges de données. Et justement pour les problèmes de structures qui peuvent être sur des territoires qui se chevauchent.
Excellent. Ben, ça va me permettre d'introduire la prochaine question. Mais juste avant, Camille, tu souhaites ajouter quelque chose sur les prochains défis à relever pour GeoTrek ?
Ouais, mais c'est vrai que c'est un projet qui est très décentralisé, où on s'appuie beaucoup sur les dynamiques des uns et des autres, et c'est la force. Mais du coup, comme disait Amandine, on a les enjeux de mieux partager les données entre nous aussi, des fois de recentraliser les données. Voilà, on a différents déjà outils et moyens de diffuser les données vers d'autres outils ou d'aller se connecter à d'autres outils. Et c'est quelque chose qu'on veut améliorer et renforcer. Et puis après, ben, je dirais qu'on est passé par plusieurs étapes au départ, comme disait, pas mal de scepticisme. C'est quoi ce projet un peu utopique, de toute façon ça marchera pas, c'est bien. Après, ça a pris, donc les gens ont commencé à regarder ça avec un peu plus d'intérêt, mais ils avaient quand même pas mal de questions sur la gouvernance, le fait que ça soit pas centralisé, c'était quoi les comités, enfin voilà, beaucoup d'interrogations sur ce truc qui est un petit peu mouvant, un peu incontrôlé, incontrôlable. Et puis finalement, cette gouvernance qui reste présente mais assez ouverte et collaborative, elle a fait ses preuves, elle s'inscrit dans le temps. On a réussi malgré tout à consolider, à des fois grouper nos financements, etc. Donc ça fait ses forces et ça fait ses preuves petit à petit. Donc il y a beaucoup moins d'interrogations, de scepticisme. La confiance est beaucoup plus forte. Donc ça, c'est bien, du fait du projet, mais aussi un peu de l'image des logiciels libres qui s'est améliorée. Malgré tout, voilà, ça reste quelque chose à consolider, il faut toujours mettre beaucoup d'énergie pour trouver des moyens, des ressources qui sont jamais trop prévues dans les projets. Nos structures, elles sont pas non plus très familières avec ce mode de fonctionnement. Nous, on a peu ou pas de ressources vraiment dédiées à ça. Donc voilà, on est toujours quand même dans cette énergie pour pérenniser et garantir que ce fonctionnement va continuer, parce que c'est pas un fonctionnement qui est bien ancré dans nos fonctionnements de base, et la collaboration entre les structures, qu'elles soient publiques ou privées, mais dans notre cas public, elle est beaucoup évoquée, mais finalement elle n'est pas si évidente que ça. Et donc voilà, ça nécessite pas mal d'engagement et d'énergie qu'il faut maintenir. Et trouver, je pense, des solutions pour demain, pour mieux pérenniser le modèle de fonctionnement et de collaboration, mais aussi des aspects plus techniques, de maintenance, de vraiment pérenniser le projet sur ses composantes techniques et aussi organisationnelles, quoi.
Effectivement. En tout cas, moi, ce que j'espère, c'est que cette émission contribuera à faire connaître votre démarche de développement de logiciels libres. J'ai mis dans la page de l'émission, dans les références, le lien également vers une vidéo, un enregistrement d'une présentation que tu as faite, Camille, dans le cadre des ateliers Blue Hat avec Bastien Guéry, donc à destination plutôt d'acteurs de l'administration et des collectivités, dans laquelle tu expliques de manière assez détaillée cette démarche de développement de logiciels libres et d'animation de la communauté. Alors, Amandine m'a tendu la perche tout à l'heure en parlant de l'ouverture des Geotrek pour leur permettre de communiquer entre eux. Une question qui brûle les lèvres des auditeurs sur le chat, c'est la question des contenus des portails Geotrek. Donc, itinéraire de randonnée, on pense à la SFRP et aux débats qu'il y a pu avoir la Fédération française de randonnée pédestre et les débats qu'il y a pu avoir avec la Fédération française de randonnée pédestre et la communauté OpenStreetMap sur les droits sur les sentiers, les itinéraires. Deux mots là-dessus, Camille ?
Oui, alors bon, mais c'est un logiciel libre, donc on le partage entre nous. Après, chacun le décline un peu comme il veut, comme il peut, avec ses contextes, ses enjeux. Donc on n'a pas on n'est pas de contraintes ni d'obligation à faire quoi que ce soit. Après, c'est nous, au-delà du côté logiciel libre, on essaye d'avancer sur aussi la question des données. Et finalement, c'est même presque ce qui nous intéresse le plus au-delà du logiciel. Donc, on essaye que tout ça soit au service de la donnée, que déjà l'outil permette de mieux la structurer, etc., mais ensuite de mieux la diffuser et de la partager et potentiellement de l'ouvrir. Donc, nous, on est assez engagés et convaincus par tout ça. On fait en sorte que l'outil le facilite, le permette. On fait aussi pas mal de communication, d'échanges où on montre que ce que ça permet et plutôt les aspects positifs, donc on échange et à chaque rencontre Geotrek d'ailleurs c'est souvent un sujet qui est évoqué. Après voilà, chacun avance à son rythme, avec son contexte, avec ses enjeux qui peuvent parfois être économiques. Nous on a la chance de pas avoir d'enjeux économiques forts autour des données, donc c'est plus simple pour nous. Voilà, après ça fait partie des échanges et nous on est là pour faciliter les choses. Après, libre à chacun de s'en emparer dans son contexte avec son pas de temps et son calendrier. Mais en tout cas, ça avance. Nous, pour la SFRP plus particulièrement, ça nous a permis de mieux collaborer sur les contenus, les échanges au niveau de nos territoires. En tout cas, de poser aussi les choses sur la table et d'avoir des contenus, encore une fois, mieux structurés et prêts à être partagés. Ensuite, les aspects politiques, ils appartiennent à chacun. En tout cas, nous, on fait en sorte que ça soit le plus simple possible, le plus encouragé possible. On fait aussi de la pédagogie en sens. Après, tout le monde avance à son rythme.
Effectivement, hein, je pense qu'en tout cas, le fait que l'outil soit facilitateur pour ouvrir les données, c'est une contribution réelle à l'évolution des structures vers l'open data, parce que l'obstacle technique, c'est souvent un des premiers qui est invoqué par les collectivités, par les administrations, pour ne pas ouvrir leurs données, c'est-à-dire ça prend du temps, ça demande du travail. Et donc, voilà, je me souviens de rencontres autour de l'open data où on disait si dans le logiciel il y a un bouton open data qui permet en quelques clics d'exporter les données dans un format ouvert et de les mettre à disposition sur un portail open data, c'est déjà un premier pas. En tout cas, c'est un frein qui est levé.
Il y a des questions en effet techniques et politiques, tout le retour de ça. Nous on essaye de lever les questions techniques et après de faire de la
sensibilisation.
Voilà, de la sensibilisation après.
Absolument. Mais je pense que le sujet avance en partie grâce à vous et j'ai eu plusieurs fois l'occasion de saluer à quel point le Parc national des écrins a été exemplaire dans sa démarche d'open data, puisque vous avez publié plusieurs jeux de données majeurs sur les sentiers itinéraires, mais aussi sur une autre application, un autre logiciel que vous développez, Camille, qui est GeoNature, qui est un logiciel d'observation faunistique et floristique. Et le Parc des Écrins avait publié un énorme jeu de données de 800 000 observations de naturalistes Voilà, et donc du coup, effectivement, c'est en donnant l'exemple comme cela qu'on peut faire bouger les lignes, je pense. Une autre question, pardon.
Oui, non, c'est ça. Ça permet de démystifier les choses, et par des cas concrets, on essaye, voilà, à notre niveau, on s'est rendu compte que quand on fait quelque chose, si ça marche, finalement, ça permet de dédiaboliser, de démystifier, puis ça inspire ou pas, mais en tout cas, c'est cette démarche qu'on essaye d'avoir.
Merci. Une dernière question de Christian sur le chat, c'est la question, puisque vous êtes convaincu par les outils libres, pensez-vous reproduire la démarche en adoptant des outils libres dans, comme support de développement? Donc on a parlé de GitHub, les réseaux sociaux alternatifs, le fait de déposer le code, de basculer le code de GeoTrack sur une forge libre. Est-ce que ça fait partie des évolutions qui sont envisagées?
Ouais, ben on s'est posé des questions aussi à ce niveau. Après, il y a le pragmatisme et l'historique aussi des fois qui joue. On a pris nos habitudes, etc., sur GitHub, alors quand Microsoft est arrivé, on s'est tous posé des grandes questions. On en a pas mal discuté, mais voilà, on n'a pas réglé tous les sujets. Celui-là, ça en fait partie. On a des outils aussi de communication. On a essayé de privilégier des outils ouverts, mais on n'est pas parfait. GitHub, on ne sait pas. On a évoqué le sujet, mais bon, ça nécessite aussi d'ouvrir des chantiers qu'on n'a pas ouverts par manque aussi de temps et de priorité. Mais ouais, ça fait partie des interrogations qu'on a, mais qu'on n'a pas priorisé pour l'instant.
Ok, merci. Donc on approche de la fin du temps imparti. Amandine, quelques mots de conclusion, des choses sur lesquelles tu souhaiterais insister sur GeoTrack?
Non, c'est très bien, voilà. Non, mais voilà, justement, c'est une belle expérience. Et quand même, après, malgré tout, je tiens quand même à signaler le rôle de Camille là-dedans et sur le fait que c'est quelqu'un qui est très réactif, et je pense qu'effectivement, le fait d'avoir un animateur et quelqu'un qui est très impliqué dans l'animation, je pense que c'est fondamental. Et ça, c'est je pense que la réussite de GeoTrack, elle est particulièrement liée à ça. Donc c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout abordé. Mais voilà, sur les aspects humains, et voilà, ça, faut pas le négliger, en fait.
Merci, bravo à tous les deux. Camille, il nous reste 30 secondes. Est-ce que tu souhaiterais ajouter quelque chose?
C'est une démarche qui a été assez empirique, un peu avec pas mal de scepticisme au début. Et puis voilà, on a eu une démarche, on a essayé d'être ouvert, de donner de la place aux différents acteurs. Et on voit que les gens sont en attente de tout ça. S'y retrouvent, et à chaque fois les retours qu'on a des utilisateurs ou des structures, c'est que ça fait du bien de voir un projet comme ça à politique, où on peut arriver avec son contexte et trouver une place et pouvoir échanger sur plein d'aspects. Donc ça fait vraiment du bien de voir ça. Après, voilà, les questions qu'on se pose, c'est comment passer à la vitesse supérieure, et toi t'es engagé là-dedans, t'as parlé de Bastien, on essaye d'avancer, mais on voit que voilà, il va falloir passer la vitesse supérieure si on veut monter une vraie marche. Et on voit que la mutualisation là, avec un outil comme ça, parce qu'on a 100 structures qui partagent un outil qui vaut plusieurs centaines de milliers d'euros, elle est conséquente. Le bon utilisation des fonds publics, on pense que, et on nous a souvent salué que c'était un exemple vraiment réussi à leur sens. Maintenant, voilà, comment on confirme tout ça et on passe à la vitesse supérieure, je pense que c'est notre enjeu, mais ça passe aussi par des moyens, comme évoquait Amandine. L'animation, on l'a faite un peu de manière volontaire, mais nos structures sont peu ou mal taillées pour ça, et donc voilà, c'est un de nos enjeux, je pense, pour passer à l'étape suivante.
Et ben, en tout cas, c'est tout le meilleur que je vous souhaite. Plein de dynamique autour de GeoTrack, une meilleure prise en compte par vos structures respectives de ce travail énorme que constitue l'animation d'une communauté de développement de logiciels libres. En tout cas, continuez à être pionnier, à être exemplaire dans vos démarches, à essaimer GeoTrack un petit peu partout. Et puis peut-être qu'on se reparlera dans quelques mois autour de Géonature, autre logiciel libre dont tu t'occupes également, Camille. Encore un grand merci à tous les deux d'avoir répondu à notre invitation, et je crois qu'on va devoir rendre l'antenne pour la prochaine pause musicale.
Eh ben, merci pour l'invitation et bon plaisir d'une prochaine fois.
Merci.
Eh bien, merci. Donc, c'était Camille Monchicot, responsable du pôle système d'information au Parc national des Écrins, animateur du projet Géotrek, Amandine Salle, administratrice du système d'information Parc national des Cévennes, Jean-Christophe Becquet, vice-président de l'April. Donc, on parlait de Géotrek, un suite logiciel libre pour gérer et valoriser sentiers et activités touristiques. Je rappelle le site web geotrek.fr, et on se donne rendez-vous en 2021 quand vous passerez à la vitesse supérieure pour nous faire un point d'étape. Et donc, je vous souhaite une belle fin de journée. Effectivement, nous allons faire une pause musicale. Juste avant la pause musicale, Amandine parlait du rôle important des animateurs. Je précise que sur la question posée par Christian, c'est l'animateur de notre Chapril, contribution donc aux services libres, loyaux et éthiques, que vous pourrez retrouver sur chapril.org avec des nouveaux services. Et effectivement, le rôle de l'animateur est absolument essentiel. Donc la pause musicale, nous allons écouter Purely Grey Extra Groovy Remix par Blue Navy. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune.
Nous avons écouté partiellement Purely Grey Extra Groovy Remix par Blue Navy. Vous retrouverez les références sur le site de l'April, april.org, et sur le site de la radio causecommune.fm. Licence, musique sous licence libre Creative Commons, partage dans les mêmes conditions, CC BY SA. Nous allons passer au sujet suivant. Que libérer d'autre que du logiciel ? La chronique d'Antanac. Isabelle Carrère et d'autres personnes actives de l'association Antanac se proposent de partager des situations très concrètes et ou des pensées mises en acte et pratiques au sein du collectif reconditionnement, baisse des déchets, l'entraide sur les logiciels libres, l'appropriation du numérique par tous et toutes. La chronique du jour par Isabelle portera sur le thème « Libérer aussi les pratiques ». Isabelle, nous t'écoutons.
Bonjour Fred, bonjour à tout le monde.
Bonjour.
Bon, ben, écoute, merci, j'avais pensé parler en ce second mardi de décembre là de nos essais à Antanac, de libérer des pratiques en effet, sur, je pensais aborder la question des liens et des relations entre des structures qui font du reconditionnement. Mais en fait, ça, je vous en parlerai une prochaine fois, et ça aura comme ça avancé encore un peu plus, parce que, voilà, en fait, je voulais faire le lien avec la dernière émission, la numéro 82 de Libre à vous du 10 novembre, au cours de laquelle on avait entendu Chloé, Leïla et Sonia qui avaient évoqué des pratiques de femmes dans l'informatique et aussi des actions de formation qui sont initiées et soutenues par des collectifs ou des associations. Et surtout, j'ai eu envie de parler de ça parce que quand j'ai vu les réactions de personnes sur ces questions, je me suis dit qu'il fallait plutôt que j'aborde ça là maintenant, d'autant que ça, vous allez le voir, ça fait un lien aussi avec des problématiques qu'on a au sein d'Antanac. En effet, j'ai lu ici ou là que plusieurs personnes n'étaient pas très d'accord avec la nécessité de former des groupes non mixtes pour que des femmes ensemble se lancent dans des sujets ou dans des choses qui ne leur ont pas été données de s'approprier dans l'éducation, la culture ou même la formation. Il y a même des personnes qui se sont dites choquées par cela, par ce besoin de non-mixité. C'est d'ailleurs très fréquent, quel que soit le sujet, informatique ou autre chose, ce rejet des groupes non-mixtes, sans doute parce que ça doit résonner comme rétrograde ou bien excluant tout simplement, parce que voilà, on peut y voir aussi un empêchement pour certains. Alors je voulais en parler moi parce que au-delà de ce que ça implique de la fermeture à ce que les gens qui étaient invités dans l'émission Libre à vous ont évoqué et très bien expliqué, ça signifie aussi une autre nature de fermeture d'esprit. Parce que en fait, comment peut-on imaginer que des filles, des femmes, des personnes qui ont été sommées de se comporter comme telles, d'aimer ce qui est attendu qu'elles aiment, de faire ce qui est convenu qu'elles fassent, pourraient du jour au lendemain se lancer toutes seules chacune dans d'autres approches? En fait, quand on continue dans l'éducation, à l'école ou dans les maisons, dans les structures familiales ou ailleurs, de demander à des filles d'être plutôt sur le champ du soin, du bien-être familial ou autre, de l'attention aux autres et surtout d'être utile aux autres et notamment aux hommes. Quand on met encore sur un piédestal parfois les questions relatives aux choses naturelles, la fragilité ou la faiblesse émotionnelle, ou etc. Bref, comment est-ce que des femmes pourraient aller vers la technique aussi simplement? Et d'ailleurs, les chiffres sont là, malheureusement, les statistiques qui indiquent que actuellement encore en Occident, en 2020, on a bien un état des lieux ancré dans les mentalités. On avait vu l'autre fois la figure de Jik qui se décline très souvent, surtout au masculin. Bon, je ne vais pas refaire l'histoire ici des femmes et de l'informatique. On sait que dans les débuts de ces sciences, il y avait beaucoup de femmes, sans doute trop, et qu'on les en a délogées. Les besoins en personnel informatique étaient croissants, les salaires étaient élevés. Il a été considéré qu'il était anormal que des codeuses à l'époque, là je parle des années 60, aient une rémunération aussi confortable et qu'il était peu concevable qu'elles encadrent des équipes mixtes. Du coup, on a bloqué la carrière de femmes programmeuses qui étaient tout à fait compétentes, expérimentées et motivées. Et les nouveaux recrutements vont conduire après à masculiniser beaucoup la profession. Du coup, l'importance du logiciel dans les esprits et dans le développement de la société a poussé à masculiniser les profils et on s'est mis à créer des postes et des emplois d'ingénieurs au masculin. En fait, on voit que souvent, pas toujours, mais souvent, quand des groupes mixtes sont sur des champs techniques, il y a comme une espèce d'empêchement de faire ou une suprématie de fait des esprits dits masculins. Voilà, et oser démonter des ordinateurs, trouver des astuces, aller vite dans des réflexes acquis, alors que plusieurs autres formes et formats d'apprentissage sont possibles. La démasculinisation des pratiques dans le reconditionnement n'est donc pas encore aboutie. Il y a eu d'autres tentatives qui ont été appelées, là aussi on appelle ça de l'inclusion, mais bon, ça a été mené depuis les années 80, mais pas un succès global. On voit bien qu'il y a encore, si mes chiffres sont bons, à peu près 30% des personnes qui sont employées dans le secteur du numérique qui sont des femmes. Alors j'en veux, pas pour preuve, mais en tout cas pour exemple, la propre difficulté en Tanakh. En fait, la grande majorité des personnes du noyau, ce qu'on appelle le noyau, c'est les membres actifs de l'association, et surtout sur le flanc de la réparation, du reconditionnement, de l'installation des postes avec des systèmes GNU Linux, eh bien, cette grande majorité-là est masculine. Je ne parle même pas des personnes qui viennent et qui demandent un ordinateur, majoritairement ou souvent pour des fils, alors qu'il y a derrière une ou plusieurs filles qui regardent en attendant, disant que peut-être elles aussi vont pouvoir avoir un ordinateur. Les personnes qui viennent pour apprendre et devenir des acteurs bénévoles pour mettre à disposition des ordinateurs sont majoritairement des hommes. Les jeunes volontaires en service civique qui viennent vers nous sont aussi des jeunes garçons. Et donc la représentation qui est faite, même chez nous à Antanac, du coup, visiblement, n'est pas attractive pour des femmes. Mais alors qu'est-ce qui se passe? Quelle serait une vision féministe de l'informatique? Et ici, du travail de reconditionnement, d'installation et de diffusion concrète du libre. Est-ce qu'on ne démontre pas, y compris chez Antanac, l'absence de compétition dans le modèle? Est-ce qu'on ne dit pas assez que tout ce qu'on fait à Antanac, en fait, rien n'est inaccessible à quiconque? Bon, je me pose cette question. On a cette expérience. On a organisé en Tanakh des formations, on les a appelées des chemins numériques. C'est sur 4 semaines et la première semaine est consacrée au démontage d'une tour, d'une unité centrale. Ces formations sont destinées à des groupes de femmes. La moitié d'entre elles, quand elles arrivent, n'ont pas encore tenu un tournevis entre leurs mains. La perspective de démonter, le fait qu'on leur demande ça, ça les intrigue, mais en fait ça les intéresse, bien évidemment. Et quand elles s'y mettent, elles le font ensemble, avec beaucoup d'entraide, d'attention les unes aux autres. Et elles sont évidemment hyper fières et elles arrivent généralement bien à tout comprendre, à remonter l'ordinateur pour que tout fonctionne très normalement. Mais a priori, si on leur pose la question, elles ne s'en pensent pas capables. Et elles disent au début, oh non, c'est pas pour moi, ben, je saurais jamais faire ça. Et ça, je dois dire que je continue de ne pas comprendre pourquoi. Bon, ceci dit, d'après une étude de la Commission européenne, que les femmes ont une vision moins positive, des effets et des conséquences du numérique dans la société que les hommes. Alors peut-être que ça a une incidence sur leur choix d'activités à privilégier, que ce soit des activités professionnelles ou des activités non rémunérées bénévoles. Une majorité de femmes a bien accès désormais au numérique, à l'utilisation d'ordinateurs, mais juste comme utilisatrices. La réparation, l'installation, l'entretien, la maintenance semblent rester des activités masculines ou encore comme réservées aux hommes. Bon, j'espère qu'on va arriver à changer cela, changer les visions, mais ça ne se fait pas en un jour, visiblement, ni même en 6 ans, l'âge d'Antanac. Il y a beaucoup de femmes qui viennent dans la salle où l'on met à disposition des ordinateurs, ça c'est sûr. Beaucoup de femmes auxquelles nous donnons du matériel, ça oui. Et d'autres qui viennent pour d'autres activités de l'association. Il y a des femmes qui sont dans le projet des chroniques numériques, là, qui sont des petits films qu'on fait sur les rapports au numérique, oui. Il y a des femmes dans les formations qu'elles dispensent sur l'un ou l'autre des logiciels. Mais nous ne sommes que 3 femmes à régulièrement réparer, démonter, installer, alors qu'il y a plus de 10 hommes. Bon, si quelqu'un, quelqu'une, a une idée à nous soumettre pour contribuer à changer ça, on sera vraiment ravis. Une personne l'autre jour m'a proposé de lancer une journée non mixte dans l'association, d'ouvrir une journée au cours de laquelle seules des femmes viendraient pour contribuer au reconditionnement. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Une autre, en entendant cette proposition, m'a dit « Oh là là, tu vas se retrouver toute seule !» Bon, enfin c'est à tenter. En tout cas, si on veut libérer aussi les pratiques autour du numérique et de l'informatique, il faut sans doute qu'on trouve des choses un peu mieux là-dessus au sein d'Antanac. Voilà.
Bah écoute, merci Isabelle pour cette chronique. Je vais préciser que quand tu faisais référence aux années 70, je suppose que tu faisais référence aux études notamment d'Isabelle Collet, qui est un peu la spécialiste sur le sujet de la place des femmes dans l'informatique. Je vais rappeler également qu'il y a le numéro national violence info femmes qui est le 3939, qu'il ne faut pas hésiter à appeler, surtout en ce moment de confinement ou non confinement où les violences conjugales ont augmenté. Et rappelle-nous, parce que j'ai un trou de mémoire en fait, le numéro de la rue, parce que tu es Antanac, c'est rue Bernard Dimet dans le 18e, mais à quel numéro?
Oui. Nous, on est au 18, la radio au 22 et Antanac au 18.
Voilà, j'avais un doute. Donc, si vous avez une réponse, ou en tout cas, si vous voulez discuter avec Isabelle et les autres personnes d'Antanac, ou simplement découvrir Antanac, hein, donc, qui est juste à côté du studio, donc vous allez au 18 rue Bernard Dimet, dans le 18e arrondissement de Paris. Et nous, effectivement, nous sommes au 22. Écoute, Isabelle, je te remercie pour cette chronique. Et puis, je te souhaite de passer
Merci
une belle fin de journée, puis une belle fin d'année. On se retrouve en 2021, pour qui sera sans aucun doute une meilleure année que 2020.
On espère tous. Merci beaucoup. À bientôt.
Merci à toi. À bientôt. Alors, nous allons passer par quelques annonces de fin. Alors, je surveille. Alors, dans les annonces de fin, donc, comme dans cette période de confinement, non-confinement se poursuit, Parinux, le groupe d'utilisateurs et d'utilisatrices de logiciels libres de la région parisienne, n'organise plus ses soirées de contribution le jeudi soir en présentiel. Et à la place, il y a des soirées de conversation autour du libre. Donc, la prochaine, c'est jeudi 10 décembre 2020, de 20h30 à 22h30. C'est en visioconférence. Donc, vous allez sur le site parinux.org. Et le sujet, c'est la visite guidée de Bastet. Alors, Bastet, c'est le chaton de Parinux. C'est-à-dire des services en ligne accessibles à toutes et toutes, amis de Parinux, il suffit de s'inscrire, et ou aux adhérentes de Parinux, suivant la philosophie du collectif Chaton, qui s'appelle, je rappelle, Collectif des hébergeurs alternatifs transparents, ouverts, neutres et solidaires. Donc vous allez sur parinux.org jeudi soir à 20h30. J'en profite pour rappeler que le chaton de l'April, c'est chapril.org, et il y a plusieurs nouveaux services qui viennent d'arriver en test. Donc n'hésitez pas à y aller, chapril.org. Je regarde s'il y a d'autres annonces. A priori, non, je ne pense pas. Il y aura d'autres événements sans doute que vous pouvez retrouver donc sur le site de l'Agenda du Libre, agendadulibre.org. Ce soir-ci, à 22h30, il y a une rediffusion du Libre à vous de la semaine dernière, donc qui était consacrée au cœur de l'April. Donc vous allez retrouver plusieurs personnes actives au sein de l'April qui vont parler de certains projets, dont notamment le Chapril, mais également les transcriptions avec évidemment Marie-Odile, que je salue d'ailleurs parce que je la vois sur le salon web de la radio. Alors, notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission du jour. Noémie Berger, Jean-Christophe Becquet, Camille Monchicourt, Amandine Salle, Isabelle Carrère. Aux manettes de la régie aujourd'hui, Étienne Gonu. Également, merci également au collectif, à l'équipe podcast, Sylvain Kutzmann, Languin, Samuel Aubert, Olivier Imbert, Elodie Daniel Girondon, excusez-moi, j'ai eu un trou de un moment de doute sur un nom. Bénévole à l'April, Olivier Grieco, directeur d'antenne de la radio, Quentin Gibaud et Christian Maumont qui découpent les podcasts en podcasts individuels par sujet. Vous retrouverez sur le site web de l'April et sur le site de la radio, donc april.org et causecommune.fm, toutes les références utiles. N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Vous pouvez également nous poser toutes questions et nous y répondrons directement ou lors d'une prochaine émission. Toutes vos remarques et questions sont les bienvenues. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous. Faites également connaître la radio Cause Commune, la voix des possibles. Je vais vous donner un exemple d'émission que vous devez absolument écouter parce qu'elle est en direct. C'est le jeudi soir à 21h. C'est les joyeux pingouins en famille. Vous y retrouverez notamment mon camarade Valentin avec qui on a fait quelques playlists de Libre à vous. C'est une émission en direct. Voilà, ils ont un sujet de départ. Vous pouvez même appeler. La semaine dernière, il y a eu beaucoup d'appels. Donc vraiment, je vous encourage à écouter cette émission jeudi soir. Donc 21h, les joyeux pingouins en famille. La prochaine émission Libre à vous aura lieu en direct mardi 15 décembre 2020 à 15h30. Notre sujet principal portera sur la Fondation pour le logiciel libre, avec l'interview donc de son nouveau président Geoffrey Knuth et la nouvelle administratrice Odile Benassi. Donc l'interview aura lieu en français. Donc c'est un grand plaisir que nous avons d'avoir le nouveau président de la Free Software Foundation, donc la Fondation pour le logiciel libre, et Odile Benassi, qui est la première, à ma connaissance, européenne à avoir rejoint le conseil d'administration de la Fondation et qui est par ailleurs une membre très ancienne, historique de l'association après. Donc on les retrouve la semaine prochaine. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct mardi 15 décembre 2020. Et d'ici là, portez-vous bien.